Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Pourquoi certains talents sont immédiatement visibles alors que d'autres, plus riches encore, nous apparaissent sur le tard? Je reçois un immense comédien, révélé au grand public par le triomphe de la série 10%, mais dont la filmographie est impressionnante. Ex-pensionnaire de la Comédie française et star du doublage réclamé désormais par Hollywood pour des super productions comme The King, qu'on attend avec impatience. Ce grand comédien, c'est Thibaut de Montalembert, qui nous donne rendez-vous à partir du 17 septembre au Théâtre Héberto à Paris pour une pièce en forme de thriller intitulée « En garde à vue » dans laquelle il reprend le rôle qu'avait incarné Michel Serrault au cinéma.
Europe 1.
Bonjour Thibaut de Montalembert.
Bonjour.
Vraiment, réellement, je suis ravie de vous accueillir. Alors, votre famille, l'une des plus vieilles de France, est issue de la noblesse des pays et remonte aux croisés. Alors, s'appeler Thibaut de Montalembert quand on est magistrat, antiquaire, notaire ou avocat, c'est parfait, c'est raccord. Mais quand on est acteur et qu'on a un physique qui correspond à son nom, pour avoir une immense palette de rôles, au départ, je dis bien au départ, dans les castings, est-ce que c'est un tout petit peu plus compliqué ?
Oui, forcément. Oui, forcément. Parce qu'on est tous pareils. On a tendance à mettre des étiquettes sur les gens et que la première étiquette, c'est le nom. C'est vrai que si on s'appelle Claude Martin, ben on n'a aucun renseignement sur vous. Quand on s'appelle Thibaut de Montalembert, tout de suite, il y a des choses qui se mettent en place dans la tête.
En fait, le nom raconte déjà une histoire,
voilà,
c'est ça ?
Exactement.
Et les réalisateurs adorent avoir des pages vierges sur lesquelles projeter justement des rôles, des personnages.
Oui, et puis je pense que ça sûrement, évidemment. Et puis je pense que la composition pour un acteur en France, contrairement aux Anglais par exemple, même aux Américains, est quelque chose qui n'est pas très pratiqué. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'on doit à notre cher ami Dominique Besnéard, qui pendant des années a écumé les rues, les écoles de France et de Navarre pour découvrir des talents bruts. Je pense à Béatrice Dalle, bien sûr, à des gens comme ça, etc., qui sont des caractères et des natures, et qu'il a fait effectivement un certain nombre de découvertes, et que les gens, après, les gens du métier ont eu tendance à prendre ça comme maître étalon par rapport au choix des acteurs.
Oui.
Un acteur, c'est quelqu'un qui... non pas peut tout faire, mais doit être le miroir de la nature humaine, quelque part.
Alors, lorsqu'on a un nom à particules et ce physique grand genre qui est le vôtre, on se dit que ça induit une certaine éducation. Les chairs, elles sont pétries par les gènes, mais aussi par l'éducation. Bon, le nom, lui, on ne peut pas en changer. Ce que vous avez tenté de faire, d'ailleurs, très jeune, en prenant un pseudonyme. Ça n'a pas duré longtemps, n'est-ce pas ?
Non, très court.
Vous êtes appelé comment ?
Dorca. Alors pourquoi Dorca ?
Mais alors on pouvait imaginer aussi qu'il y avait un début de particule,
mais
non ?
Exactement.
Donc voilà. Vous êtes trompé.
Je me suis trompé. Puis Dorca, c'était Cador, c'était pas terrible.
Bon, un acteur, c'est donc un physique, une présence, mais aussi une voix, une diction. Dans le passé, les grands acteurs ont toujours eu des timbres et des phrasés identifiables, de Pierre Brasseur à Jean Gabin, de Philippe Noiret à Jean-Pierre Mariel, d'Yves Montand à Michel Serrault. Aujourd'hui, chez les acteurs, il n'y a plus ce phrasé aussi personnel que par le passé.
Oui, je ne sais pas très bien à quoi c'est dû. Je pense qu'il y a aussi peut-être une espèce de lissage de la langue qui s'est produit au cours du 20e et début 21e, puisqu'on est dedans. Encore début 20e, jusqu'en 1950, encore 60, 70, même à la radio, il y avait des façons de parler qui n'étaient pas des accents, mais enfin bon... On pouvait quand même, voilà. Et ça s'est lissé énormément. Et maintenant, on peut dire d'une certaine manière qu'il y a deux façons de parler. Il y a la façon banlieue et la façon intramuros. Hein. C'est ce qui est un peu terrible d'ailleurs, parce que c'est si on parle comme moi, on appartient à la bourgeoisie. Ah, si Ziva comme ça, on appartient
à la banlieue. Vous savez, vous ne le faites pas très bien.
Non, je ne fais pas très bien. Je sais que je ne le fais pas très bien. Ben oui, mais on ne se refait pas. Hein.
Alors, je citais à l'instant Michel Serrault. Il a eu deux carrières, celle des comédies et celle des films inscrits au patrimoine du cinéma français comme garde à vue, dont le théâtre Héberto à Paris propose à partir du 17 septembre une adaptation particulièrement puissante qui reprend comme dans le roman originel de John Wainwright, le principe du huis clos avec, dans le rôle du notable, maire de la ville qui est convoqué le soir de Noël au commissariat pour être entendu sur une affaire de viol et de meurtre de trois jeunes filles. Eh bien vous, Thibault de Montalembert, entraîné dans un bras de fer hallucinant avec un commissaire plein de certitudes. En fait, cette intrigue, elle correspond bien au théâtre. Même si on a découvert le roman, pour ceux qui ne l'avaient pas lu, par le cinéma. Parce que le théâtre, comme dit votre metteur en scène d'ailleurs, c'est une sorte de maison des aveux.
Oui, oui. Alors il y a ça, et puis il y a aussi effectivement que c'est un huis clos qui a les trois règles principales du théâtre, c'est-à-dire unité de lieu, de temps et d'action. On commence à un temps A et on finit à un temps X, et c'est le temps réel. Donc d'une certaine manière, c'est même plus adapté au théâtre qu'au cinéma. Et c'est vrai que quand Francis Lambraille, qui a fait l'adaptation de Garde à vue, m'a proposé le rôle, évidemment, j'ai sauté au plafond.
Qui joue l'inspecteur dans la pièce.
Et qui joue ce que faisait Guy Marchand.
Vous jouez une partition différente de celle dont on se souvient de Michel Serrault, forcément.
C'est ça qui est très très compliqué pour moi, parce que j'ai vu le film, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui vont venir voir la pièce, mais j'ai vu le film et effectivement j'ai été marqué comme beaucoup par la prestation de Serrault. Pour moi, le rôle de Bergerot, il est lié à Serrault complètement.
Alors d'ailleurs, comment s'en écarte-t-on ?
Il faut chercher. On est dans un décor qui n'est pas du tout réaliste. Voilà, déjà, ça aide.
On ne plante pas un commissariat.
C'est plutôt un cul de basse-fosse, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Mais enfin, c'est un lieu d'enfermement, ça c'est certain. Mais ce n'est pas un bureau type de commissariat. Donc ça, déjà, ça aide. Ensuite, il y a, même si on est en 1980, c'est-à-dire on est à la veille du passage de l'élection de Mitterrand, on est à la veille surtout de l'abolition de la peine de mort.
Oui, mais, c'est ça, qui a été donc voilà, aboli le 18 septembre 81. Voilà. Et ce qui est absolument incroyable dans ce qui noue ce thriller, c'est que votre épouse, en fait, elle va faire une déposition à charge alors qu'elle sait parfaitement que vous encourez la peine de mort dans ce cas-là.
Oui, oui. Mais c'est mystérieux parce que cette histoire, c'est là où la pièce est formidable. C'est comme un millefeuille. Il y a plusieurs lectures possibles. Il y a effectivement, elle fait une déposition à charge. Elle est peut-être pas totalement consciente de l'importance et de la gravité de sa déposition. Il y a une histoire de vengeance. Il y a une histoire de couple qui ne fonctionne pas depuis des années, qui est un couple de provinciaux notables. Dans nos familles, on ne divorce pas, dit-elle, etc., etc., et qui vivent ensemble dans une espèce de silence et d'hostilité larvée depuis 15 ans.
Il y a plein de non-dits, de secrets à pulvériser.
Plein de secrets à pulvériser, absolument. Et les choses ne se passent pas du tout comme on pense qu'elles vont se passer.
Formidable. Europe 1. Vous avez jusqu'au 15 janvier pour courir au Théâtre Iberto, à Paris. Applaudir Thibault de Montalembert, cet après-midi mon invité dans Garde à vue. On fait une pause très courte, on se retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est jusqu'à 16h sur Europe 1 avec vous Isabelle Morizet et votre invité dont on connaît le visage mais dont le nom nous échappe parfois à tort. C'est Thibault de Montalembert qu'on va pouvoir retrouver sur scène.
Un bras de fer exceptionnel se déroule au Théâtre Iberto à Paris du 17 septembre au 15 janvier grâce à la pièce En garde à vue dans laquelle Thibault de Montalembert, cet après-midi mon invité, tient le rôle principal. Et Thibault de Montalembert est entouré de Vladimir Yordanov, de Marianne Bassler, de Francis Lombrel. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord toutes ces questions. Thibault de Montalembert, on est tous issus d'une histoire, on se construit avec ou contre. Alors, plantons le décor de la vôtre, qui est, il faut bien le dire, follement romanesque. Nous sommes en Mayenne, au château de Haute-Rive, dont les plus vieilles pierres ont été posées au XIIIe siècle. Au XVIIe, on a rajouté des tourelles et des encorbellements. Ce château a une enceinte avec des douves, un parc, une allée de tilleuls, une chapelle dans laquelle vos ancêtres sont inhumés, et tout autour, les bois et les prés du Pays de Loire. Ce domaine hors du temps du château de Haute-Rive, c'est donc la maison de votre enfance.
Oui, c'est la maison de mon enfance, exactement. C'est un peu la maison du Grand Maulne, parce que c'est une maison qu'on a perdue quand j'étais adolescent. Donc, j'ai connu la fin de quelque chose. Mais effectivement, ça a été mon terrain de jeu.
La fin d'un monde, comme dans Au plaisir de Dieu, le roman de Dormesson, un peu ça.
Oui, oui, absolument. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est bien que ce soit comme ça, d'ailleurs, parce que je pense que je ne serais pas comédien aujourd'hui si ça ne s'était pas passé.
Alors forcément, même sans une famille particulièrement originale, on a une enfance singulière quand on grandit dans un château. En plus, votre famille était très singulière. Vous étiez le dernier d'une fratrie de 7 enfants, n'est-ce pas ? Et comme il y avait 9 ans d'écart avec celui qui vous précédait et 20 ans avec l'aîné, vous avez grandi dans une solitude absolument totale entre des parents qui, dites-vous, avaient l'âge d'être vos grands-parents. Donc on est bien forcé de s'inventer des mondes dans un contexte pareil.
Exactement, voilà. Et vous avez lu mon bouquin, par hasard ?
Je ne l'ai pas lu, hélas, mais je sais voilà. que vous avez mais sorti un livre l'année dernière.
Voilà, qui s'appelle « Et le verbe se fait chair » et qui raconte... En gros, un peu mon histoire à travers les livres qui m'ont marqué. Parce que c'est ça, c'est que dans cette grande maison, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas tout ça. Et par contre, il y avait énormément de livres. Et très très vite, dès que j'ai su lire, à l'âge de 5 ans, je suis tombé dans les livres. Et ça m'a sauvé la vie d'une certaine manière. Ça m'a nourri, ça a développé un imaginaire. Et ça m'a emmené vers la littérature et vers le théâtre.
Alors, au début de ce chapitre, vous nous avez confié que, en fait, vous arriviez à la fin d'une histoire, puisque l'année de vos 13 ans, votre père, qui avait fait, on va dire, de mauvaises affaires, a dû vendre aux Trives. Comment quitte-t-on un domaine dont on connaît chaque cachette et qui est un monde à part entière à l'intérieur du monde ? Un monde, en fait, dont on était le jeune seigneur solitaire.
J'ai eu la chance que ça se passe quand même, j'avais 13 ans. Donc, j'étais totalement conscient, j'avais vécu des tas de choses dans cet endroit. Je suis parti avec un trésor de souvenirs. Ça m'a nourri et ça... Alors ça a été évidemment une... C'est comme de perdre quelqu'un quand on perd une maison de famille comme ça, quelle qu'elle soit, grande, petite, peu importe. Les maisons sont imprégnées par les gens qui les habitent et quand ça s'est produit sur plusieurs générations, ce sont des histoires de famille qui disparaissent. Donc effectivement, il y a un deuil. Mais en même temps, j'ai eu la chance énorme de pouvoir grandir et de passer une enfance dans un endroit pareil qui m'a constitué, je vous dis, un trésor de sensations, d'images, de rêves, etc. que j'ai transporté...
longtemps.
Oui, toujours.
Toujours. C'est bien plus joli de répondre ainsi. Alors, il y a ce lieu. Et puis, il y en a un autre, très singulier aussi, puisque l'année suivante, c'est-à-dire l'année de vos 14 ans, et pendant 4 ans, eh bien voilà, vous vous retrouvez dans une pension, elle aussi, hors du temps, en Vendée, tenue par un ancien novice bénédictin. Chaque jour, on y célèbre la messe, et surtout, on y donne un seul cours inspiré du discours sur l'histoire universelle de Bossuet. Alors, est-ce que je peux vous demander, Thibaut de Montalembert, si quand même ce qui se passait dans le monde entre 1976 et 1980 vous a un peu échappé?
Oui,
parce
un
qu'en
peu.
Plus, il paraît que vous ne sortiez que 3 fois par an pour aller
absolument.
Voir vos parents.
Oui, bien sûr, les choses m'ont échappé. Mais enfin, c'est-à-dire qu'en même temps, ça m'a échappé, mais ça m'a échappé comme ça a échappé à tout le monde avant que la radio et la télévision existent. Donc chacun vivait là où il vivait et voilà, il avait la vie qu'il avait. Moi, j'ai vécu comme ça, d'une certaine manière. Donc effectivement, pendant 4 ans, ce qui s'est passé dans le monde, j'étais pas très au courant. Par contre, j'ai eu, pendant ces 4 ans, c'était la continuité un peu de ce que j'avais vécu à Hauterive. Mais c'était un truc fou.
Mais alors, par exemple, un seul cours donné, inspiré du discours sur l'histoire universelle de Bossuet. J'imagine qu'il y avait plein de digressions
et qu'en fait, on
parlait géographie, mathématiques, philosophie, histoire littérature, bien sûr, littérature, théologie. Tout ça, en fait, dans une espèce de cours universel.
C'est ça. On était inscrit, parce qu'il fallait quand même qu'on ait une scolarité, donc on était inscrit, je crois, au cours Atmer pour un truc très mineur qui pouvait justifier notre scolarité. Et tout le reste n'avait rien à voir avec ce que les gens apprenaient à l'école d'habitude.
Et quand vous avez pu confronter, en sortant de ce pensionnat, ce que vous aviez justement engrangé par rapport à ce que savaient les jeunes de votre âge, vous avez fait quel constat ?
D'abord, j'ai raté mon bac, alors comme ça a été simple. j'ai raté mon bac parce que j'ai oublié d'y aller, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais décidé, parce que ma vie a basculé, enfin a oscillé entre deux choix, quand j'étais enfant, devenir prêtre ou devenir acteur. Et j'avais décidé de rentrer au séminaire le jour où je devais passer la plus grosse épreuve du bac. Et mon choix, c'est-à-dire cette décision, a tellement occulté tout le reste que j'ai totalement oublié d'aller. Que j'aurais pas eu mon bac, ça c'est sûr. Mais enfin, j'ai vraiment oublié d'y aller, quoi.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est, bon, dans les familles nobles, autrefois, l'aîné des garçons reprenait le titre, n'est-ce pas? Le deuxième fils, lui, intégrait l'armée, et puis le troisième était destiné à entrer dans les ordres. Voilà. Est-ce que votre mère vous avait quand même un peu aiguillé? En fait, vous étiez habité par mille questions, vous étiez un adolescent plutôt mystique, mais il y avait un terrain propice, et votre mère le... Votre mère avait tout construit pour?
Oui, enfin, elle n'avait pas tout construit pour, mais c'est vrai que ma mère était irlandaise, avec une espèce de foi du charbonnier, comme ça, chevillée au corps, et qu'elle elle aurait été ravie d'avoir un fils prêtre, bien sûr. Donc ça flottait dans l'air. Mais ce n'était pas ça, c'était autre chose. Il y avait effectivement tout ce terrain, disons, qui était propice à ça. Et il y avait une vraie... moi, ce que j'appelle une inquiétude métaphysique,
oui,
avec laquelle je suis né, je peux dire, en tout cas, aussi loin que je me souvienne, elle était là, et puis elle est toujours là, d'ailleurs, même si je ne suis plus du tout d'église, même si je ne pratique plus, en tout cas, ma religion de base, qui était la religion catholique, le questionnement métaphysique, le questionnement du sens de la vie est central, absolument, pour moi, et mon métier tourne, dans ma tête, en tout cas, tourne autour de cette question.
On fait une pause, on retrouve tout de suite Thibault de Montalembert.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Europe 1.
Son autobiographie Et le Verbe se fait chair est sorti l'an dernier. Cette année, son actu se poursuit sur les planches. Thibault de Montalembert est l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Alors Thibault de Montalembert, on évoquait tout à l'heure cet outil essentiel de l'acteur, la voix. Vous, pour des raisons très particulière, vous êtes devenu, alors je ne sais pas si c'était en fait l'année de vos 15 ou 16 ans, un lecteur à voix haute pour votre frère aîné qui avait perdu la vue rapidement. Je précise que en fait il vivait à New York, il était peintre et un soir il est agressé, attaqué à l'acide, il perd ses yeux. Quand il rentre en France, vous allez faire tout ce que vous pouvez pour le relier au monde par la lecture. Votre lecture à voix haute, c'est ça?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que
dites-nous,
je ne fais pas tout ce que je peux pour le relier au monde. C'est lui qui me relie au monde. Parce que Hugues est écrivain maintenant.
Oui.
Il avait écrit son premier roman qui était La Lumière Assassinée. Puis, enfin, roman, pas d'ailleurs pas roman, qui était son histoire. La Lumière Assassinée, et qui avait fait un assez gros succès à l'époque. Et c'est quelqu'un qui a une énorme puissance de vie, très forte. Moi, j'étais cet adolescent vivant à la campagne, en Vendée, dans un monde complètement à part. Et lui, cette rencontre, je dis cette rencontre parce que mon frère était un grand voyageur et qu'il revenait en France tous les 4 ans ou 5 ans. Donc, entre 8 et 12 ans, ben, c'est énorme. Et entre 12 et 16, c'est énorme.
Bien sûr.
C'est un monde.
Bien sûr.
Donc, je connaissais pas vraiment cet homme.
Et il a 20 ans de plus que vous.
Il a 20 ans de plus que moi, oui. Et je ne connaissais pas vraiment cet homme, c'était une espèce de figure mythologique, un peu de rêve. Enfin, il avait eu une vie un peu à la Henri de Montfred ou à la Kessel, voyageant à travers la planète dans tous les sens, étant un peu journaliste, un peu cinéaste, un peu... voilà. Et donc, j'ai commencé à lui lire des livres qu'il me demandait de lui lire, et qui étaient des livres, je me rappelle avoir découvert justement Montfred avec lui, La croisière à Zuachiche ou Les trésors de la mer Rouge, etc. Et on s'arrêtait toutes les quatre pages parce qu'il connaissait tous
oui,
ces
mais
coins-là.
En fait, c'est presque une révélation commune. Enfin, lui connaissait,
ouais,
mais il les revivait
voilà,
par votre voix
voilà,
et vous, vous découvriez.
Et moi, je découvrais et il me... Et non seulement je découvrais en lisant, mais je découvrais même en le voyant par ses yeux qu'il n'avait plus d'une certaine manière parce que lui en avait un souvenir très vivant. Donc, ce qu'il m'en rapportait était quelque chose de très vivant. Voilà, et donc ça a commencé à me donner vraiment le goût de la lecture à voix haute, et que j'ai continué toujours, et que je continue, je n'ai jamais arrêté, je fais beaucoup de lectures publiques, j'enregistre des bouquins, voilà.
Mais vous découvrez donc, à cette époque, votre voix et votre capacité à incarner. Parce que pour rendre vivant, flamboyant un récit, soudain, est-ce que vous prenez conscience du talent, du potentiel qui est le vôtre? Vous embarquez votre frère, vous le faites voyager?
Oui, alors, c'est pas aussi évident que ça. Je crois que c'est au départ, ça vient du grand plaisir de la lecture que moi j'ai toujours eu. Je pense qu'on peut pas lire pour les autres si on n'a pas un énorme plaisir à lire pour soi déjà.
Je reviens à cette période parce que j'imagine qu'elle était quand même fondatrice. Lire à voix haute pour son frère aveugle, c'est un exercice, une formation vraiment singulier parce que c'est infusé par l'amour filial.
Oui, oui, c'est vrai.
Alors, il y avait ce carburant-là aussi.
Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Mais j'étais un gamin très solitaire. Hein. J'avais pratiquement pas d'amis parce que j'étais pensionnaire. En pension, j'étais le plus vieux de l'école. Donc voilà. Et puis, j'avais très peu d'amis. J'étais assez renfermé, assez solitaire, etc. Et cet homme qui est arrivé un peu dans ma vie quand j'avais 15-16 ans, non seulement était mon frère, mais c'est surtout devenu mon meilleur ami. Ça l'est toujours.
Ça l'est toujours. Alors, aujourd'hui, Hugues de Montalembert, votre frère aîné, est écrivain. Est-ce que c'est par les mots que vous avez projetés vers lui, ceux qu'il ne pouvait pas lire, qu'il en est arrivé à la littérature? Il était peintre, bien évidemment, perdant la vue, il ne pouvait plus peindre. Mais si vous n'aviez pas été là pour établir ce pont avec la littérature, dont il se souvenait, mais qu'il ne pouvait plus savourer, puisqu'il faut du temps pour apprendre à lire en braille. Pensez-vous qu'il serait devenu écrivain s'il n'y avait pas eu cette communion entre vous ?
Oui, parce qu'il avait déjà écrit des livres, qu'il avait déjà proposés à des maisons d'édition, qui lui avaient été refusés. Et la lecture, l'écriture faisait partie, non seulement ça, mais en plus de ça, il était très très fort en graphologie. Il avait une vraie intuition avec ça. Donc l'écriture, la lecture et l'écriture étaient absolument centrales dans sa vie aussi. Non, non, j'ai pas été à l'origine de quoi que ce soit, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt lui qui a été à l'origine de pas mal de choses.
Europe 1.
On chemine cet après-midi en compagnie de Thibaut de Montalembert, qui joue à partir du 17 septembre au Théâtre Héberto à Paris, en garde à vue. On se retrouve tout de suite.
Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1, avec Isabelle Morizet et son invité, le comédien, la voix française qui double d'ailleurs Hugh Grant, c'est Thibaut de Montalembert.
Thibaut de Montalembert, votre grand-père, maternel, irlandais, était fou de théâtre. Il paraît qu'il montait des pièces jouées dans les villes de Mayenne, non loin du château familial. Votre maman, elle, se destinait à une carrière de cantatrice avant que la guerre n'éclate. Alors finalement, comment a-t-elle réagi lorsque vous lui avez annoncé que, contrairement à ce qu'elle souhaitait, qui était de coutume autrefois pour le troisième fils d'une famille noble, et ben voilà, vous ne deviendriez pas prêtre, mais comédien. Comment a-t-elle réagi ?
Oh ben, elle était ravie aussi. Elle était un peu partagée, en fait. Elle était ravie, elle était triste et ravie. Elle aurait été ravie que je rentre comme je voulais le faire au monastère. Et puis, elle a été ravie que je sois comédien parce que je retrouvais, je renouais avec quelque chose qui était en elle et dans la famille. Et dans ce... Les Irlandais sont des gens qui jouent avec les mots tout le temps.
Mais l'idée de vouer votre vie entière à la comédie, elle avait germé comment ?
Je pense qu'elle est très porteuse de ça à l'origine. C'est-à-dire que des histoires... Parce que moi, mon grand-père, je ne l'ai pas connu, malheureusement.
Oui.
Mais maman chantait. Bon, elle était handicapée, elle avait de l'arthrose, etc. Elle ne pouvait quasiment pas marcher. C'était à une époque où on ne faisait pas des prothèses aussi facilement qu'aujourd'hui. Et elle avait un très mauvais sommeil. Et du coup, la nuit, elle chantait. Elle allumait la radio et elle connaissait tous les opéras par cœur, surtout l'opéra italien. Et elle chantait, et moi je me mettais derrière la porte et j'écoutais. Et puis c'était un théâtre vivant, ma mère, c'était un truc. Hein. C'est vraiment un truc, c'était un théâtre vivant.
J'ai repéré une formule délicieuse de votre part. Vous dites, maman, elle avait du pétrole.
Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais, elle avait du pétrole. Et puis il y a aussi cette chose que la télévision est arrivée dans ma vie pour... mon père a loué la télévision, une télévision noir et blanc, pour voir le premier homme atterrir sur la Lune et marcher sur la Lune, comme beaucoup de gens ont fait la même chose. Et la télévision est entrée dans les foyers ce jour-là. Elle n'en est plus sortie. Et donc, moi, je devais avoir 6-7 ans. Et donc, je voyais la télévision. Et il y avait tous ces films qui passaient le dimanche. Il y avait le dimanche, il y avait tous les vieux westerns, il y avait tous les Tarzans, enfin, tous les vieux films. Et moi, qui étais très solitaire, etc.
Et puis, il y avait Claude Santelli, ses programmes en noir et blanc, merveilleux.
Il y avait Monsieur Cinéma.
Joué en direct avec les grands pensionnaires de la Comédie Française.
Absolument, absolument. Il y avait Monsieur Cinéma, il y avait plein de trucs. Et je me disais, ça doit être dément de faire ce métier où on peut vivre tant de choses et tant de vies en même temps.
Alors, vous êtes allé trouver Jean-Louis Barrault.
Oui.
Bon, on est au début des années 80. Jean-Louis Barrault dirige à Paris le Théâtre du Rond-Point. Que vous dit-il ?
Ben, je lui dis « Bonjour monsieur, écoutez, voilà, j'aimerais bien vous passer une scène et que vous me disiez ce que vous en pensez, si je rêve ou si c'est possible. » Et il me dit, bah, allez-y, montez sur le plateau. Alors moi, je pensais qu'on allait faire ça dans son bureau. Pas du tout. Il me dit de monter sur le grand plateau de la grande salle. Donc, je monte sur ce plateau. Déjà, en soi, c'était un truc. Et je lui
Pour la première fois de votre vie, sur une scène, et devant Jean-Louis Barrault.
Voilà. Et je lui balance le monologue de Ruy Blas, « Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, etc. » Et il me dit, à la fin, il me dit, « c'est bien, vous êtes trop intelligent, c'est trop dans la tête, tout ça, il faut que ça descende, mais il y a quelque chose, il faut y aller. »
Vous pouvez y aller, et vous avez eu raison, effectivement, on dit y aller, Thibaut de Montalembert, parce que votre trajectoire, elle est impressionnante. D'abord, la classe libre du cours Florent, la plus difficile à intégrer. Puis l'école de Patrice Chéreau à Nanterre, au Théâtre des Amandiers, qui est alors vraiment le centre du monde de la création artistique. Et enfin, la Comédie-Française, où Marcel Bluval vous fait engager. Trois mondes très différents, tous voués au théâtre. Est-ce que parfois vous avez dû désapprendre ce que vous aviez appris précédemment ?
Alors, non, parce que j'ai eu un bon maître qui était justement Chéreau, qui n'était pas un pédagogue, mais qui était un maître, dans le sens, je dirais presque oriental du terme. C'est-à-dire que contrairement à quelqu'un comme Vitesse, qui était un grand théoricien du théâtre, Chéreau était quelqu'un qui ne disait pas grand-chose, mais par contre qui faisait. Et il avait, alors c'est pas lui qui l'a dit, et puis je l'ai découvert ailleurs, mais il avait la même, cette chose qu'ont les grands artistes en général, je pense. Ce que disait Dulin dans cette petite anecdote comme ça, un de ses élèves qui passait une scène, Dulin lui explique la scène, etc. Il lui dit, voilà, il faut que tu la joues comme ci, comme ci, comme ça, travaille dans ce sens-là. La semaine d'après, il repasse la scène, et Dulin lui dit, ah mais non, mais pas du tout, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Ah bon, mais maître, la semaine dernière, vous m'avez dit ça. Mais additionne, mon petit, additionne. Et c'est ça, en fait, c'est ça. C'est que je pense que dès qu'on commence à être enfermé dans un savoir-faire, il faut tout casser. Le savoir-faire, c'est terrible, le savoir-faire.
Tout casser ? Vous savez faire exactement tout casser. Vous l'avez prouvé en ne restant que seulement 2 ans à la Comédie-Française, où vous avez joué de grands rôles, et dont vous dites d'ailleurs avec humour que bon, la Comédie-Française, c'est une salle de muscu intensive où on apprend à muscler les émotions en jouant 2 spectacles en alternance et 1/3 en répétition. Mais tout de même, pourquoi êtes-vous parti au bout de seulement 2 ans ?
D'abord parce que j'étais engagé pour, après c'est des contrats reconductibles, pour 2 ans comme pensionnaire. Et puis il y avait dans l'air de me faire passer sociétaire. Et sociétaire, c'est un contrat de 10 ans.
Ça vous faisait peur ?
Oui, ça c'est, voilà. Après, bon, j'ai eu peur comme ça assez souvent dans ma vie pour les engagements à long terme. Je me suis soigné depuis, ça va mieux. Ça va mieux.
Bon, Thibaut de Montalembert, avant que la série 10% ne fasse un triomphe à la télé et vous offre enfin une gloire méritée auprès du grand public, bah le métier, lui, vous a toujours sollicité. 80 films, plus même à votre actif avec les plus grands réalisateurs, Arnaud Desplechin, Régis Varnier, Philippe Liorec, Costa Gavras, Roche Dizem, James Ivory, David et Stéphane Fuenkinos, les autres m'excuseront. Mais que manquait-il en fait pour qu'il n'y ait pas cette visibilité ?
Ça, c'est mystérieux. Moi, j'ai une théorie, alors pour les hommes, hein, parce que les femmes, c'est encore autre chose, et cette théorie ne s'applique que pour l'image, le cinéma. Je pense qu'il y a un moment où on est en adéquation entre son âge physique et son âge réel, et que ce n'est pas au même moment pour tout le monde. Je pense que quelqu'un comme James Dean ou comme Gérard Philippe était en adéquation avec leur âge réel, physiquement, très jeune, ce qui n'était pas le cas d'un Noiret, qui n'était pas le cas peut-être de moi. J'ai toujours fait beaucoup plus jeune que mon âge, physiquement, bon, c'est comme ça. Et je pense que là, je suis en train physiquement de rejoindre mon âge.
Juste avant de faire une pause, vous dites que pour devenir un acteur, de toute façon, il faut au moins 15 ans. Pourquoi 15 ans ?
Bah, une bonne bouteille, c'est à peu près ça.
Ok, compris. On retrouve tout de suite Thibaut de Montalembert.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1. Europe 1.
Cet ex-pensionnaire de la Comédie-Française a gagné en notoriété avec la série télé 10%. Il est aussi une star du doublage. Le comédien Thibaut de Montalembert est l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi sur Europe 1.
Thibaut de Montalembert nous donne rendez-vous du 17 septembre au 15 janvier au Théâtre Hiberto à Paris pour En garde à vue, une pièce qu'il interprète avec Vladimir Yordanov, Marianne Bassler et Francis Lombrel. Thibaut de Montalembert, certains rôles au théâtre peuvent emmener très loin, car lorsqu'on incarne, par exemple pendant 6 mois, soir après soir, un même personnage très marquant, en lui prêtant son corps, sa voix, son énergie, bah, il peut finir par je pourrais presque dire, distiller en vous certaines de ces contradictions. Et il paraît que, au tout début de votre carrière, il vous est arrivé, après avoir joué pendant plusieurs mois ce genre de personnage marquant, d'aller voir une magnétiseuse qui vous délestait de l'emprise d'un rôle, c'est vrai ça ?
Oui, absolument. Absolument. C'est-à-dire que je la voyais régulièrement à chaque fois d'ailleurs. Je pense, c'est encore une fois une théorie, mais je pense que on est à peu près, tous les êtres humains, nous sommes composés, mettons, de 5 couleurs. On a les 5 mêmes couleurs, tous. Ce qui nous différencie, c'est le dosage des couleurs. Mon dosage est unique et le vôtre est unique. Mais nous avons les mêmes couleurs, ce qui fait que quand je parle d'amour, de haine, d'avarice, d'envie, etc., on se comprend. Quand je vais prendre un personnage au théâtre, l'avare par exemple, je vais aller chercher en moi la couleur jaune, par exemple, qui correspond à l'avarice, à l'envie, etc. Et je vais l'hypertrophier. Et puis les autres, qui sont la générosité, la gentillesse, etc., dont je ne vais pas avoir besoin pour le rôle, je vais les minorer. Et du coup, c'est un peu comme après, comme une salle de muscu, c'est-à-dire à force de le faire tous les soirs pendant 3 mois, 4 mois, etc., cette couleur jaune va m'envahir.
Il faut tout faire réapparaître après.
Oui. Et après, tout d'un coup, on se retrouve avec un espèce de truc qui envahit tout et qui est encombrant. Et donc, j'allais voir cette femme qui me disait « Ah bah oui, mais t'es complètement à côté de ton corps ». Donc elle me remettait ce qu'elle me disait, elle me remettait mon énergie dans mon corps. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, en tout cas...
Pour que
quand
vous
je
vous ressembliez
voilà.
À nouveau.
Et en tout cas, c'est vrai que quand je sortais de chez elle, j'étais pas pareil, c'est-à-dire j'étais plus flottant, j'étais là, j'étais de nouveau là.
Mais par exemple, quel personnage s'était trop bien installé en vous, à force de l'incarner jour après jour, au théâtre?
Il y a eu Trilecki dans Platonov, par exemple.
Qui était?
Trilecki, c'est le médecin dans Platonov. C'est un type qui va taper tout le monde, qui est très gourmand, qui est une espèce de lâche et en même temps très spirituel, qui est quelqu'un qui est la conscience, mais la conscience dévoyée un peu de Platonov, comme ça. Voilà, bon.
Une espèce de conscience cynique.
Oui, c'est ça, voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu mélangé, parce que s'il y avait cette période de l'école de Nanterre, les Amandiers, qui a été une espèce de période folle. On était 19 et on a vécu intensément à 19 pendant 4 ans, en fait, parce qu'il y a eu 2 ans d'école, puis après, il y en a eu 9 sur les 19 qui ont été engagés en fond de troupe du théâtre. Donc moi, j'en faisais partie et je suis resté 4 ans.
Avec Vincent Pérez, Agnès Jaoui,
Vincent Pérez, il y a Marc City, il y a Laurent Gréville, il y avait plein de gens qui ont tous bossé, d'ailleurs, après, ouais. Pratiquement. C'était une période folle, vraiment.
Alors, dans la version de La Dame aux Camélias, mise en scène par Alfredo Arias, qui a marqué le retour au théâtre d'Isabelle Adjani au début de ce millénaire, vous jouiez le narrateur. Bon, Adjani est une tragédienne magnifique. Personne ne joue à mourir comme elle. Mais elle semble ne pas vouloir tenir les rôles à distance. Est-ce que ça peut rendre la vie vraie compliquée pour un comédien?
Oui. Je pense, vraiment. D'ailleurs, il y en a un avec lequel, d'ailleurs, Adjani a eu un enfant, qui est Daniel Day-Lewis. Daniel est quelqu'un qui s'investit tellement dans ses rôles que c'est compliqué pour lui. C'est pour ça qu'il fait très peu de films, d'ailleurs. Parce que,
il lui ressemble, en fait.
Oui, c'est-à-dire que tous les deux, ce sont des gens qui sont intenses, comme ça, qui ont une intensité d'engagement incroyable. Enfin, voilà, oui, non, je pense que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver, encore une fois... quelque chose qui est à la fois en soi et à l'extérieur de soi qui permette de tenir le cap.
Alors revenons à vous, Thibaut de Montalembert. Vous êtes depuis 20 ans la voix française de l'irrésistible Hugh Grant depuis Coup de foudre à Notting Hill avec Julia Roberts. Hugh Grant est le plus séduisant bégayeur qui soit dans sa façon de jouer, n'est-ce pas? Donc j'imagine que ça doit être quand même particulier de doubler ce jeu, ce rythme toujours haché. Non?
Vous qui êtes
si fluide, voilà.
Not at all. non, c'est un plaisir absolu. Moi, j'adore l'humour anglais. Vraiment, ça me fait hurler de rire.
C'est votre langue maternelle.
C'est ma langue maternelle, mais je ne le parle pas aussi bien que je voudrais. Mais enfin bon, mais c'est vrai que j'adore cet humour-là. Et lui, il l'a... C'est pas quelqu'un qui a une énorme palette de jeux, mais... Les 3 ou 4 couleurs qu'il développe à chaque fois, c'est irrésistible. Et c'est vrai que je le connais très bien maintenant.
Alors, on parlait doublage, mais vous doublez aussi Brad Pitt.
De temps en temps.
Et Pierce Brosnan. Donc, avant Daniel Craig, C'était donc vous, James Bond,
Thibault
de Montalembert,
non, non, justement, non, non, pas du tout. Pierce Brosnan, je l'ai doublé deux ou trois fois.
Oui.
Les autres aussi.
Mais pas pour James Bond.
Mais pas pour James Bond. Le seul que je fais régulièrement, c'est Hugh Grant. Et j'en fais très peu, en fait, de doublage, parce que c'est un exercice qui est un peu dangereux.
Alors, effectivement, votre langue maternelle est l'anglais, puisque votre maman est irlandaise. Donc, j'imagine que vous captez mieux qu'aucun autre comédien français les subtilités, les effets dans le jeu, par exemple, originel d'un Brad Pitt, d'un Hugh Grant, d'un Pierce Brosnan. Est-ce qu'il vous arrive parfois de corriger les traductions des textes, en fait, les dialogues qu'on vous propose en français? Parce que vous trouvez que dans le jeu de l'acteur anglais et dans sa façon de le livrer, il y aurait mieux à dire en français.
Oui, non, mais c'est certain. Après, il y a un gros problème. On est lié à ce qu'on appelle la synchronicité. Et quelquefois, ils sont obligés d'employer certains mots parce que ces mots-là font ouvrir la bouche de telle et telle façon.
Et on dit plus vite en anglais ce qu'on dit en français. Il y a plus
y a
de syllabes.
Il y a moins de mots en anglais qu'il y en a en français, plus. Oui. Là, ce matin, justement, je me suis doublé moi-même dans une scène en anglais.
Pour The King.
Pour The King.
On va en parler dans un instant.
Et je me disais, c'est quand même beaucoup mieux en anglais. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me doublais moi-même. Et pourtant, je l'ai joué, etc. Mais j'ai trouvé ça beaucoup mieux en anglais.
The King sort
en novembre sur Netflix. Et ça a été une expérience très courte, mais absolument formidable. C'est dirigé par David Michaud, qui avait fait, entre autres, Animal Kingdom, qui était un film assez violent, mais moi, j'avais trouvé formidable. David Michaud, c'est un réalisateur australien. Et The King, c'est l'adaptation de Henry V de Shakespeare. Et c'est Timothée Chalamet qui joue Henry V, qui est quand même un acteur absolument magnifique.
La nouvelle coqueluche d'Hollywood.
Oui, mais
justifié.
Il est étonnant. Il est, je pense, peut-être même plus étonnant que ce qu'était DiCaprio à son époque, parce que d'abord, il est européen et américain. Il a les deux, et il a une sensibilité. Il a quelque chose de différent. Puis il a une beauté en plus incroyable. Mais c'est un très bon acteur. Enfin voilà, il a tout pour lui. Il a absolument tout pour lui. Donc c'était formidable de jouer avec eux. Et alors, je joue dans le film Charles VI de France, qui était un roi schizophrène, fou, qui avait des périodes assez longues où il était totalement timbré. Puis de temps en temps, il émergeait. Et quand il émergeait,
fulgurance d'intelligence,
il reprenait le pouvoir.
Ouais.
Et il faisait que des conneries, évidemment. Mais c'était le roi, donc on ne le destituait pas. La guerre de Cent Ans, etc., la bataille d'Azincourt, les Anglais gagnent. Charles VI donne la France aux Anglais. Et donc, c'est cette scène que je joue.
Ouais.
Et au départ, il voulait que je sois avec une grande robe blanche, pieds nus, un être un peu éthéré, comme ça. Puis moi, je m'étais renseigné, j'avais vu que le mec, il était quand même schizo, il ne se lavait plus, il ne se coupait plus les ongles, il était craspec, etc.
Voilà, la robe n'était pas forcément blanche.
Je suis arrivé, j'ai dit, écoute, David, peut-être on pourrait voir un peu les choses différemment. Je lui dis ça, il me dit, écoute, vois avec le maquilleur, l'habilleuse, je leur fais complètement confiance, c'est bien ton idée. Et je tombe sur le maquilleur d'un des plus grands metteurs en scène, qui était Cantor, qui a été un des plus grands metteurs en scène du XXe siècle, et donc qui était un maquilleur de théâtre qui était passé au cinéma. Et quand je lui parle de ça, je vois son œil s'allumer. Il me dit « Yes, it's great !» Et tout d'un coup, il a pris ses couleurs, ses machins, etc. Et je suis arrivé dans un état de crasse, le cheveu gras et tout ça. Et c'était, j'ai regardé, et le résultat est formidable.
Waouh ! On attend impatiemment donc la sortie de The King en novembre avec, entre autres, Thibault de Montalembert et Timothée de Chalamet. On fait une pause, on se retrouve tout de suite.
Europe 1.
Depuis 2015, il incarne l'agent artistique Mathias Barneville dans la série Télé 10%. C'est Thibault de Montalembert, invité d'Isabelle Morizet. Pour quelques minutes encore, vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Thibault de Montalembert, y aura-t-il une quatrième saison de 10%, série qui a triomphé sur France 2 et qui connaît désormais, via Netflix, un succès international?
Oui, il y a une quatrième saison qui va commencer à être tournée fin octobre.
Ouais.
Donc c'est 4 mois de tournage, après il y a le montage, etc. Malheureusement, vous ne l'aurez pas avant une petite année.
Avant une petite année. Mais il semblerait que vous ne soyez pas pour Un cinquième tour de piste.
Non, parce que je trouve que ça a été une expérience formidable. C'est un très bel objet qui brille au firmament comme ça. Il ne faut pas que ça se casse la gueule, il faut que ça se termine en beauté. On a eu comme invité et comme, oui, comme guest vraiment le haut du panier. Il y a un moment, ça s'épuise un peu. voilà.
Bon, eh bien écoutez, ceux qui n'ont pas été sollicités par Dominique Besnéard comme guest seront appréciés. Bon, alors, on l'a évoqué à l'instant, depuis la diffusion de 10% sur Netflix, les Américains vous réclament. Vous avez tourné avec Timothée Chalamet, nouvelle coqueluche, et c'est tout à fait justifié, d'Hollywood, pour cette super production The King de David Michaud qui va sortir en novembre. Vous avez d'autres projets avec les studios américains ?
Alors, avec les Américains, non. Il y a quelque chose dans l'air avec la Corée, toujours grâce à 10% d'ailleurs, avec un des
On regarde trois... 10% en Corée.
Je me suis fait arrêter.
Bon, du sud ou du nord ? Du sud, j'imagine.
Oui, du sud. Je me fais arrêter par des Chinois dans la rue. Je me fais arrêter par des Israéliens. Je me fais arrêter par des gens, mais incroyables. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc non, alors pour l'instant, les Américains, il n'y a pas autre chose tout de suite. Il y a peut-être cette chose-là avec ce réalisateur coréen. Et par contre, j'ai fait un film en France que j'ai beaucoup aimé faire, qui a été réalisé par Ruben Alves, qui avait fait La Cage Dorée il y a quelques années,
oui.
Qui était une très jolie comédie. Et là, c'est un film qui va s'appeler Miss, comme Miss France,
oui.
Et qui va sortir au mois de mars. Et j'ai beaucoup, beaucoup de...
De tendresse pour ce film.
Oui, absolument, oui.
Ouais. Vous dites que les Chinois, les Russes, les Coréens vous reconnaissent maintenant dans la rue sous toutes les latitudes et longitudes, mais il faut préciser quand même que 10% au départ, ça a été refusé par toutes les chaînes.
Ou ça a été refusé par tout le monde, en fait. Ça a marché, ils ont trouvé les financements à partir du moment où Cédric Clapiche a dit « Banco, moi j'y vais ».
Ah oui.
Et Canal+ a dit « Bon, non ». Et le service public a dit « Ben oui ». Et pour nous, c'est tellement mieux. Bah oui, parce que c'est vrai que Canal+, c'est jamais 800 000 spectateurs. France 2, c'est 9 millions.
Est-il vrai, Thibaut de Montalembert, que votre grande joie, en fait, serait que Jacques Audiard vous fasse signe ?
Bah, j'adorerais. Ça, c'est vrai, parce que c'est, je pense, un de nos plus grands réalisateurs. On se connaît, en plus. Voilà, on verra bien. Mais j'aimerais beaucoup ça. J'aimerais beaucoup travailler aussi avec Danny Boone. Que je croise, et je l'ai croisé encore hier, j'ai pas osé lui dire, mais enfin voilà.
Bon, on lui dit.
Voilà. C'est vrai parce que la comédie est une chose magique. Je pense que les plus grands acteurs sont des comédiens, dans le sens des acteurs de comédie.
Alors en attendant, vous nous donnez rendez-vous dès le 17 septembre avec un rôle puissant que Michel Serrault avait incarné au cinéma et que vous allez défendre sur la scène du Théâtre Hébertot à Paris face à Vladimir Yordanov, Marianne Bassler, Francis Lombrel. La pièce a pour titre « En garde à vue et pas garde à vue ». Il y est question de secrets inavoués qui donnent le vertige autour de l'amour et du meurtre. Pourquoi ne faut-il pas rater cette pièce ?
Je pense que c'est une pièce qui... Alors, à l'époque, quand Miller en avait fait le film dans les années 80, il y avait cette affaire, l'affaire de Bruit en Artois.
Oui, là, qui faisait résonance.
Qui faisait résonance. Mais bizarrement, ça continue à résonner quand même aujourd'hui, alors d'une façon assez profonde, sur l'étroitesse d'esprit. Ça parle de ça, ça parle de l'étroitesse d'esprit, ça parle de la peur des autres, de la peur de la parole, de la peur de... Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Donc je pense qu'il y a... C'est intéressant parce que ça donne une vision du subconscient de notre pays, cette pièce, d'une certaine manière.
Aujourd'hui en 2019.
Aujourd'hui en 2019.
Alors qu'elle a été écrite, je crois, en 79.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Rendez-vous au Théâtre Hébertot à partir du 17 septembre et jusqu'au 15 janvier. Merci infiniment pour cette promenade inattendue et si passionnante. Voilà,
merci.
Je vous dis à très vite.
Merci à vous, merci beaucoup.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. À demain, Isabelle Morizet en compagnie d'un nouvel invité, le journaliste, essayiste et polémiste Georges-Marc Benamou pour son livre Le Général a disparu, paru chez Grasset. Dans un instant, c'est L'équipe est sauvage, emmenée par Mathieu Noël. Restez avec nous. Europe 1.